Le sujet de la semaine.
On va parler de quoi cette semaine?
Vous avez des idées?
Ultra cringe.
On peut dire que c'est vraiment nul ou pas?
Elle a osé.
Le sujet de la semaine pour ce premier épisode, c'est la dépersonnalisation de Gwen Stefani. Quel rapport entre la chanteuse, sa gamme de parfums et le Japon? Attention, c'est très simple, l'appropriation culturelle. Et oui, on en mange et on en remange avec elle. On vous explique tout. Dans une interview datée du 10 janvier dernier pour Allure Magazine, l'icône des années 2000 du groupe No Doubt se raconte. Alors petite, son père, qui voyageait beaucoup, lui racontait les us et coutumes des quartiers colorés de Tokyo, dont celui d'Harajuku. Nom éponyme de sa dite gamme de parfums. La passion, voire l'obsession, ou bien l'appropriation, on en discutera dans cet épisode, pour le look et les filles Harajuku, c'est-à-dire, pour ceux qui ne voient pas, des vêtements très colorés, un maquillage flashy de poupée, avec des joues toutes roses, des grands yeux, ne date pas d'hier. En 2004, elle signait un album solo, Love Angel Music Baby, et je vous le donne en mille, oui, grosse surprise, tout le branding tournait déjà autour de la culture japonaise. Son apparence, les danseuses qui l'entouraient, les visuels de communication, son imaginaire se serait tant nourri de la culture japonaise pendant son enfance et son adolescence que lorsqu'elle se rend elle-même dans ce pays, la surprise est totale. Voilà son pays d'origine. Elle l'assure, elle s'identifie comme japonaise et Twitter le lui assure, il l'identifie comme voleuse de culture. Et comme le rappelait un article de Mademoiselle qui est sorti récemment, la chanteuse du groupe No Doubt est une habituée du genre. Elle récidive, persiste et signe comme une provocation. Gwen Stefani, en 2014, c'était déjà une native américaine avec une coiffe blanche traditionnelle dans le clip Hot. J'ai vu le clip et oui, j'étais outrée alors que je connais des gens qui sont blancs et qui portent des dreads. Donc c'est vous dire, quand même. En 2021, c'était de nouveau une apparition jugée problématique dans le clip Light My Fire de Sean Paul. Parce qu'elle se présente comment? Eh bien, j'en parlais avec des dreads blondes. Oh là là, on dirait presque qu'elle fait des bolasses à Aurillac. Mais non, c'est une superstar d'Hollywood. Elle avait aussi une robe aux couleurs de la Jamaïque et des tweets se moquaient d'elle en disant « Mais dis donc, elle serait jamaïcaine, lol. » Alors, pourquoi cette sortie nous a donné envie de nous pencher pour ce premier épisode sur la question de l'appropriation culturelle?
Petit rappel sur l'appropriation culturelle, qu'est-ce que c'est? Alors, cette expression qui fait systématiquement froncer les sourcils de Marie-Jeanne et de Nicolas, qui aimeraient bien pouvoir se déguiser en geisha et en rasta, en paix, pendant leur rallye ou leur soirée d'école de commerce, eh ben, figurez-vous que c'est plus complexe que ce qu'on pense. Si vous avez froncé des sourcils par rapport à ce que je viens de dire, peut-être qu'il faut vous remettre en question. Peut-être que vous êtes comme notre chère Gwen Stefani, qui ne voit pas où est le problème de pimper ses outfits de clip avec des coiffes natives américaines ou de prétendre être japonaise parce qu'elle a passé 10 jours à Tokyo. Donc, tendez l'oreille et écoutez ce qui suit.
Donc, je suis tout ouïe. Nous sommes tout ouïe.
C'est ça, merci Mao. Alors, il y a appropriation culturelle. En fait, quand on reprend les traditions ou des éléments esthétiques d'une culture à laquelle on n'appartient pas.
Okay.
Ensuite, quand on les détourne de leur sens premier, en les stigmatisant, en les fétichisant, en les sexualisant, ou alors en les tournant en ridicule. Et quand on en tire un profit financier sans impliquer les personnes concernées, sans les créditer, sans les citer, et même sans même leur demander leur avis, d'ailleurs. Donc, je vais vous donner un petit exemple pour que ce soit un petit peu plus clair. Imaginons une designeuse de mode à succès qui reprend les dessins traditionnels d'une communauté minorisée d'un autre continent et puis qui vend ses créations, plagiées, au prix fort à des bobos occidentales qui veulent un brin d'exotisme dans leur garde-robe. Le tout sans verser le moindre centime aux concernés, sans même les citer et encore moins leur demander leur opinion. Bah ça, c'est de l'appropriation culturelle.
On pense à personne, mais des grandes chaînes comme Zara et H&M.
C'est ça, exactement. Et puis, c'est un exemple à peine inspiré d'une certaine marque française.
Ah,
Isabelle Marant.
Oui.
Il y a assez de sources d'inspiration dans la culture française, je pense. Bordel.
Preuve d'énervement.
C'est ça. La plupart des codes, finalement, et des esthétiques qui sont victimes aujourd'hui d'appropriation culturelle et qui sont devenues tendances, autrefois, elles étaient lourdement réprimées, elles étaient moquées. Et donc, c'est ça aussi le problème, c'est que certaines cultures minorisées, elles sont devenues valides seulement à partir du moment où elles ont été récupérées par des cultures dominantes, disons-le, par les blancs et les blanches. Donc, la plupart sont rebrandées et montrées comme quelque chose de complètement nouveau, alors qu'elles existent depuis toujours, finalement, dans certaines cultures. Gwen Stefani, figure-toi que c'est pas la seule chanteuse à avoir fait parler d'elle pour des histoires d'appropriation culturelle. Non.
Mais non.
Ah bah non, ce serait trop beau. En 2013, il y a aussi la chanteuse Katy Perry qui a suscité la controverse parce qu'elle a porté une tenue sexy inspirée des geishas pour les American Music Awards en interprétant son titre Unconditionally.
Ok.
Et puis, il y a aussi Selena Gomez lors de l'interprétation de Come and Get It, qui est quand même une chanson très suggestive, dans l'émission Dancing with the Stars, aussi en 2013, décidément l'année de l'appropriation culturelle. Et ben, elle portait une tenue inspirée des hindous et elle s'est mise à danser sur une choré de type bollywoodienne, très très loin des coutumes ancestrales d'Asie du Sud. Mmh. Et puis, enfin, il y a aussi Miley Cyrus, qui a porté un bindi sur le front, tu sais, c'est ce bijou significatif sur le plan spirituel et culturel, et là, qui avait complètement perdu son sens avec la chanteuse.
Et en plus, tu me fais une liste un petit peu sans fin, on dirait que les stars, en fait, ne comprennent pas la leçon.
Pas du tout. Et ça concerne aussi les traits physiques. J'ai eu l'occasion d'en parler dans une interview pour Mademoiselle en 2021, avec la journaliste brillante, Rokaya Diallo.
Brillantissime.
Ouais, brillantissime. À propos de son documentaire qui s'appelle Bootyful, donc il y a un jeu de mots avec booty, donc les fesses, et beautiful, beau. Et donc elle disait à propos de la mode des grosses fesses, il y a un effet Kim Kardashian qui s'est approprié une esthétique associée aux femmes noires et qui a modelé sa silhouette en fonction de ça. Comme ce n'est pas une femme noire, davantage de personnes se sont identifiées à cette esthétique et c'est devenu un critère
Absolument.
De beauté enviable. Alors c'est facile de plagier à tour de bras puis de crier à l'appréciation culturelle quand on est épinglé. En revanche, quand il s'agit de prendre la parole sur les inégalités, les injustices vécues par ces communautés soi-disant appréciées, on voit rarement les Gwen Stefani et Kim Kardashian prendre parole. En général, les personnes qui font de l'appropriation culturelle, elles sont rarement ou jamais d'ailleurs discriminées à une échelle systémique par tous les codes et esthétiques qu'elles admirent tant.
Et merci beaucoup Audrey. Et maintenant que tu nous as développé tous les arguments et les explications intrinsèques à l'appropriation culturelle, on va passer à la pratique. Soit de questions que je me suis posées, soit de questions que d'autres personnes ont pu se poser. On ne sait pas, on verra.
Oh là là, ok.
Alors, attention, tournons au gros jeu. Appréciation culturelle ou appropriation culturelle, si je me fais des tresses?
Sur la question, il y a plusieurs avis. Alors, pour moi, il n'y a pas forcément d'appropriation culturelle à proprement parler si toi, dans ton coin, tu te fais des tresses, puisque tu ne fais pas d'argent sur un business, tu ne t'appropries pas toute une culture, etc. En revanche, je suis toujours gênée par des personnes d'une culture dominante qui vont reprendre des codes d'une culture minorisée. On va leur dire, ouais, c'est super beau, c'est tendance, c'est chouette,
etc. Tu dirais, si une personne noire l'avait fait, ce que tu disais, une personne blanche, elle prend un code, on dit que c'est magnifique.
Voilà,
la personne à qui ça appartient, elle le prend, on est en mode genre, ultra communautaire.
Exactement. Et je me souviens d'une anecdote, moi, quand j'étais encore une fois au collège et que pour la première fois j'avais fait des tresses avec des rajouts, vraiment, pour le coup, c'est vraiment une anecdote qui pourra répondre à ta question.
Ouais.
J'avais fait des tresses pour la première fois, j'étais très contente, donc j'arrive au collège. Et en fait, j'ai eu beaucoup de remarques racistes qui me disaient que c'était sale, que c'était moche, que c'était des cheveux en plastique, etc.
Oula,
et peut-être un mois plus tard, une personne blanche avait fait la même chose avec des rajouts, donc des tresses. Et là, tout le monde, c'était vraiment pas les mêmes réactions,
ouais,
c'était vraiment magnifique.
Parlant.
C'est hyper parlant. Donc je pense que c'est surtout ça la question qu'il faut se poser. Il y a un truc un peu dissonant, je trouve.
Ouh, plus complexe pour quelqu'un, pour quelqu'un qui vote à droite. Si j'ouvre un restaurant de spécialité ivoirienne, moi, Mao, blanche, d'origine italienne, je sais, je suis très métisse.
qui est allée une fois en Côte d'Ivoire et qui, du coup...
Dans un contexte de j'y suis allée, ils ont un grand cœur, j'adore cette culture.
D'accord.
Le dromadaire, c'est mon animal fétiche.
Mais du coup, je te dis non.
Merci.
Tu ne peux pas ouvrir de restaurant de spécialité ivoirienne. En tout cas, ça serait bizarre que toi, toute seule, sans l'aval de personnes de cette culture, sans une équipe composée de personnes de cette culture, ouvre un restaurant de spécialité ivoirienne.
Je comprends bien. La prochaine question, elle a à voir avec, pas un fait divers, mais un fun fact, fait marrant en anglais, de Ariana Grande, qui en 2019 a voulu se faire tatouer sur la paume de la main « Seven Rings », mais en mandarin. Elle poste la photo sur les réseaux sociaux et il est écrit « Petit barbecue ». Ce qui était donc la preuve qu'elle ne connaissait pas du tout la culture et tout ce qui accompagnait l'esthétique qu'elle voulait mettre sur la paume de sa main. Donc, question. Si j'arbore, disons, un tatouage japonisant ou polynésien, mais sans connaître leur signification, appropriation ou appréciation?
Bah, Alors, déjà, ça serait bien de savoir ce que tu mets sur ton propre corps, de connaître la signification de la chose que tu t'inscris. Et puis, ben, moi, personnellement, dans ma culture, il n'y a pas forcément ce problème du tatouage. Mais pour répondre à la question, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux quelqu'un qui s'exprimait sur le sujet. Et je pense que ça peut répondre à ta question.
Oui.
C'est une personne qui disait « Voir des personnes blanches porter en toute détente les mêmes tatouages pour lesquels mes ancêtres ont été massacrés me met dans une rage sans nom. » Et fair enough.
Ça fait sens.
Ça fait sens.
Et alors, peut-être une des dernières questions. Si Gwen Stefani dit qu'elle est japonaise et qu'elle utilise l'esthétique du Japon pour vendre des produits, appréciation ou appropriation ?
Appropriation au bûcher. Gwen
Stefani. Le verdict tombe.
La sentence est irrévocable.